L'AVSDS présente Parlons Deuil, le podcast qui vous fait découvrir tous les aspects du deuil. Épisode 1, comment aider un ou une endeuillée. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Parlons Deuil de l'AVSDS. Aujourd'hui, le sujet, comment aider un ou une endeuillée. Ce sujet va comprendre plusieurs parties. Nous allons d'abord débuter en essayant de comprendre ce qu'est le deuil. Ensuite, nous découvrirons les moyens d'aider un endeuillé, si on est soi-même touché, si on est externe. Et puis aussi, comment éviter d'en faire trop, tant pour soi que pour l'autre. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente de l'AVSDS, Esther Vinch, qui est psychologue spécialisée en deuil. Bonjour Esther.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à ce premier épisode de ce podcast. Alors je vous propose de commencer directement par la question qu'on se pose. Au final, qu'est-ce qu'un deuil? Qu'est-ce que ça comprend? Parce que c'est quand même quelque chose de très large. Alors, j'ai trouvé une définition et je vous demanderai peut-être après de la commenter. Alors, voici la définition. Le deuil est un processus psychique en lien avec la perte d'une personne, d'un objet, d'une partie de soi ou d'une vision du monde préalablement investie par le sujet. Alors, pour vous qui êtes spécialisé en deuil, est-ce que ça vous semble correct? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent?
Ça me semble très correct. Peut-être c'est utile de simplifier un peu cette définition. Donc, le sujet, voilà, c'est la personne qui est en deuil. Et c'est bien un processus psychique suite à une perte. Donc, cette perte peut être la disparition d'une personne, d'un objet, d'une partie de soi ou justement d'une vision du monde que la personne a investi préalablement. Ça veut dire qu'il y a eu un lien très fort ou moins fort ou important qui fait que ce processus se met en route.
D'accord, donc vous l'avez dit, on peut être en deuil de beaucoup de choses, donc des personnes, mais aussi des animaux, il me semble, d'un futur abandonné. Mais est-ce qu'on peut aussi être donc en deuil de son passé, par exemple?
D'après la définition, je dirais non, mais aujourd'hui, on utilise très souvent le mot ou l'expression « faire son deuil ». Pour le passé, je dirais peut-être plutôt être nostalgique, voire avoir des regrets. Être en deuil signifie vraiment souffrir de l'absence de quelque chose ou de quelqu'un qui était important pour nous.
Au final, si quelqu'un décède, c'est aussi une partie de notre passé qui disparaît. Et donc, est-ce que c'est du deuil ou est-ce que c'est de la nostalgie?
Non, c'est quand même le deuil parce que la personne n'est plus là. On souffre de l'absence de la personne qui constitue, qui est une partie de notre vie et de notre histoire.
Est-ce que ce deuil, est-ce qu'on peut dire qu'il est vécu de la même manière par tout le monde? Est-ce qu'il y a plusieurs manières de vivre ce deuil ou est-ce qu'on a quelque chose de générique, quelque chose que tout le monde fait, hein, des étapes que tout le monde traverse?
Ce qui me paraît primordial, c'est de savoir que chaque deuil est unique comme chaque personne est unique. Aujourd'hui, on a un peu abandonné ce concept assez bien connu des étapes de deuil. Pourtant, on peut toujours constater quelques similitudes dans le processus du deuil. On peut peut-être voir le moment de la nouvelle, qui est pour tout le monde un choc. Après toute une phase de deuil que nous on dit la désorganisation, qui est accompagnée par des émotions très différentes comme la colère, le sentiment d'injustice, la culpabilité, bien sûr la tristesse, du grand chagrin, la solitude, la peur, pour terminer par une réorganisation, ça veut dire un apaisement et peut-être des nouveaux attachements.
D'accord. Et donc, on a essayé d'englober un petit peu la question du deuil. Alors, je vous propose maintenant de plonger un peu plus dans notre sujet du jour, donc je le rappelle, qui est comment aider un ou une endeuillée. Bien sûr, il y a l'aide professionnelle, mais aussi celle des proches. On va surtout parler de la deuxième, donc l'aide des proches. Mais alors, en deux mots, en quoi consiste l'accompagnement et surtout pourquoi est-ce que les gens vont chez les psys? Qu'est-ce qui se passe pour qu'un deuil pousse les gens à aller consulter?
Je crois qu'il faut être bien consciente qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent le deuil. J'aimerais commencer avec ça pour répondre à votre question. La nature de la relation et sa qualité. Et puis, quelle mort? Est-ce qu'elle a été violente? C'est une suite d'une guerre, une disparition après une longue maladie, de la perte d'un enfant, l'âge de l'endeuillé. Par exemple, pour un adolescent et une personne âgée, le deuil et les processus sont très, très compliqués. les ressources personnelles que l'endeuillé a, sa résilience, son histoire de vie, quelquefois aussi une surcharge de deuil quand il y a plusieurs pertes en même temps. Et tout ça fait que peut-être la personne a des besoins que l'entourage ne peut pas satisfaire et qui demandent un accompagnement professionnel. Ce n'est pas du tout un échec de l'entourage, quelquefois aussi l'entourage est proche, peut-être trop proche et aussi impliqué et touché par la mort, ce qui complique énormément un accompagnement.
Et donc, vous parliez de cette aide des proches et de l'entourage. Alors, j'imagine qu'il y a différents types d'aide, ne serait-ce que par la situation, voire même par le moment dans le temps, le moment où on apprend le deuil de quelqu'un, la durée depuis le décès du proche ou bien le début du deuil.
Il y a plusieurs moments, oui. C'est le début, donc, quand on est présent au moment de l'annonce du deuil. Et puis, il y a un accompagnement qui peut se faire tout au long de ce long processus qui en suit, par l'enterrement par exemple. Et là, on ne peut pas définir la durée, mais ça, c'est un autre engagement qu'au début du deuil.
Donc l'aide peut être différente, comme vous l'avez dit. Et avant de passer peut-être au conseil très concret, est-ce que vous avez quelque chose à dire, quelque chose qui est plus important avant de considérer cette aide concrète ?
Oui, ce qui est primordial, c'est que la personne qui aimerait aider ou accompagner quelqu'un est au clair avec ses ressources personnelles. Donc, les conseils qui vont suivre, ce sont des conseils plus ou moins généraux. Toujours très important pour chaque personne qui aimerait s'investir, c'est de regarder et de explorer chez soi-même si elle a des ressources personnel assez conséquente si la situation de vie n'est pas trop difficile, par exemple de se trouver soi-même dans un moment de deuil ou de situation extrêmement difficile. Et puis, je crois aussi, ce qui me tient à cœur, c'est de mettre l'accent à la nécessité de se déculpabiliser si on n'est pas au point si on n'a pas les forces nécessaires d'accompagner quelqu'un. C'est mieux de ne pas s'engager quand on sent qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire que de commencer et abandonner par la suite parce que l'endeuillé, avant tout, il a besoin d'une personne fiable.
C'est comme pour les cours sanitaires, par exemple, éviter d'avoir deux blessés plutôt que un.
Oui, c'est ça.
D'accord. Toujours regarder cette situation. Donc, nous allons continuer en voyant concrètement ce que l'on peut faire. Donc, bien sûr, comme vous l'avez très bien dit, Esther Winch, il faut être prêt et avoir les ressources nécessaires. Mais maintenant, si on a les ressources, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Commençons par quand on apprend la mauvaise nouvelle.
Je crois que c'est important de savoir qu'il n'y a pas une réaction unique. Il n'y a pas uniquement l'effondrement. Il y a peut-être aussi une crise nerveuse. Il y a un moment glacial où la personne ne sent plus rien, ça sont des réactions tout à fait normales. Donc, de savoir ça nous met plus à l'aise et il n'y a rien qui est pas normal ou anormal qui doit faire peur.
Donc, dans la réaction de l'endeuillé.
Voilà. Si on est présent lors du moment de l'annonce, on adapte donc en fonction de cette réaction, de ces réactions que j'ai décrites auparavant. Ce qui est toujours important, c'est de rester auprès de la personne, donc pas de l'abandonner, de supporter le silence, ce qui est quelque chose de très difficile, surtout dans nos temps. Et bien sûr, pas commencer à consoler, il n'y a rien à consoler. Et la gravité du deuil ou de cette perte ne peut pas être jugée par une personne extérieure, ce qu'on est de toute façon comme accompagnante. Et puis très pratique aussi, assurer la sécurité de la personne.
Et point de vue contact, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit s'approcher ou justement s'éloigner ? Pas fuir comme vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le prend dans nos bras ?
En fait, il n'y a rien à privilégier. Ce qui est important, c'est de ne pas forcer à faire quelque chose que l'endeuillé ne veut pas. Ça veut dire si il doit rester pour lui, donc s'il montre des signes qu'il veut pas qu'on le touche, bien sûr, on le touche pas. S'il montre qu'il a besoin d'être dans les bras de quelqu'un, on peut le prendre dans les bras. C'est avoir ce feeling de voir, de sentir le besoin de l'autre, qui n'est pas forcément capable de l'exprimer verbalement à ce moment-là.
Et ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on peut faire? Parce que j'imagine que le moment du choc est là, mais il y a aussi le moment après. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose concrètement?
Alors, on peut proposer son aide et son soutien. Par exemple, est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un? Poser cette question-là pour prévenir. Après, très pratique, est-ce que l'endeuillé a besoin d'aide dans les démarches auprès des pompes funèbres? Des choses très pratiques. Proposer à boire, peut-être pas à manger. Normalement, c'est pas ça le besoin de l'endeuillé. En résumant, c'est être présent, mais pas s'imposer.
Mais si on apprend par la suite ce deuil, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on reçoit par exemple un message sur WhatsApp, si on reçoit une lettre, ou peut-être même si on l'apprend dans le journal, est-ce qu'on a différentes manières de réagir?
Bon, je pense répondre sur le canal sur lequel on a appris un peu la nouvelle. Donc, si je reçois un WhatsApp, je réponds. Au premier lieu, par un WhatsApp, on ne va pas rester avec un WhatsApp, mais comme première réaction.
Et pourquoi?
Normalement, si la personne nous envoie l'info par WhatsApp, c'est qu'elle n'a pas envie pour l'instant d'en parler, ou qu'elle est submergée, ou qu'elle ne trouve pas les mots, ou qu'il y a trop aussi de parler à tout le monde. Donc, de respecter, je dirais, le canal sur lequel on a appris la nouvelle. Et puis, je dirais aussi, s'il avait voulu parler, il aurait appelé. Mais par la suite, bien sûr, c'est pas attendre que l'endeuillé nous appelle, c'est à nous de faire le pas, comme on a dit avant, quand on se sent prêt avec ses propres ressources.
Et puis, qu'est-ce qu'on écrit dans ce type de réponse quand on apprend la nouvelle? Qu'est-ce qu'on écrit ou...
Alors là, je parle pas uniquement de WhatsApp, mais aussi les fameuses cartes ou lettres qu'on a envie d'envoyer. Donc, on s'abstient de souligner l'horreur de la situation et, je dirais presque encore pire, souhaiter du courage à l'autre.
D'accord, donc pas de « j'imagine que ça doit être dur pour toi ».
Le « j'imagine », c'est déjà un pas, je trouve, qu'on dit pas « je sais ». Que c'est dur pour toi, parce que bien sûr, le deuil touche tout le monde un jour ou l'autre. On a des pertes importantes dans sa vie, mais comme on a dit au début, chaque deuil est unique, comme chaque personne est unique, donc on ne sait pas ce que l'autre est en train de vivre.
Et donc, pas souhaiter du courage, mais pourquoi? C'est peut-être ce dont la personne a le plus besoin en ce moment.
Ça donne tout de suite un défi ou même une charge que maintenant je dois avoir du courage, mais je crois que c'est juste trop demandé.
Ce sont peut-être aussi des mots qui ont un peu perdu leur sens. On a tendance à toujours écrire « bonne chance »,« bon courage ».
J'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu leur sens. Aujourd'hui, c'est vite dit « ah, voilà, du courage », mais dans cette situation-là, avoir du courage, c'est déjà survivre, c'est la preuve qu'on a du courage.
Maintenant, on sait ce qu'il faut éviter, mais qu'est-ce qu'il faut écrire alors? Qu'est-ce qui est positif pour la personne?
Ce qui est très aidant, c'est de mentionner des souvenirs en commun avec la personne décédée. Donc, peut-être écrire des vacances qu'on a passées en commun ou des souvenirs qu'on a avec cette personne lors d'une fête ou de l'enfance. Après, ça dépend du lien, bien sûr, qu'on a eu, donc on ne va pas inventer quelque chose, mais réfléchir à ce qu'on a vécu avec le décédé ou la décédée.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques, justement, de faire encore plus mal, de rajouter du sel dans la plaie?
Non, pas du tout, au contraire. Oui, en effet, on a souvent peur de faire mal, donc on s'abstient de dire quelque chose. Au contraire, ça aide beaucoup, parce que ça montre que cette personne existe aussi pour d'autres personnes. Et la plus grande crainte de l'endeuillé, c'est toujours l'oubli. Quand on oublie celui qui est décédé et avec les souvenirs qu'on a en commun avec d'autres personnes montre bien qu'elle va pas disparaître des mémoires. Ça peut aussi atténuer la solitude, un souvenir. Et J'ai souvent constaté lors de mes accompagnements que les endeuillés, après le premier choc, pendant la longue phase d'errance, que c'est très aidant de relire ces mots qui, justement, évoquent des souvenirs en commun.
Donc, on entre presque déjà dans le soutien long terme par le premier message qu'on écrit quand on apprend le décès.
Oui, exactement.
En parlant donc de ce soutien à longue durée, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'endeuillé ?
Avant de commencer à lister des conseils, j'aimerais mettre l'accent sur l'acceptation de sa propre impuissance. On sera toujours confronté à sa propre impuissance et à la souffrance de l'endeuillé qui est pas mesurable. Ça, c'est déjà la base. Pour passer à quelques idées, comment on pourrait aider la personne endeuillée, c'est déjà prendre des nouvelles régulièrement. C'est pas l'autre, donc pas écrire ou dire « tu peux m'appeler quand t'as besoin de moi ». Non, l'autre, il aura pas la force d'appeler. Donc, être actif et prendre des nouvelles. Ça peut être par téléphone, par une petite lettre, par une petite visite, pourquoi pas. Une autre chose, c'est de proposer de l'aide pratique. Donc, l'aide pratique, de faire des achats, peut-être garder les enfants, faire le ménage, faire la cuisine. Donc, tout ce qui est très, très difficile de faire pour l'endeuillé parce qu'il a perdu tous les repères.
Et si on retrouve l'endeuillé et par exemple, on va boire un café avec lui ou qu'on va chez lui, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
On peut bien sûr parler de cette situation. Donc là, je passe au point, je dirais, le plus important, c'est la présence et l'écoute. Une présence paisible, même si on est aussi touché, on a le droit de pleurer avec l'endeuillé, mais être là, tout en étant consciente de ses propres limites, bien sûr, et l'écoute, donc... Un besoin fondamental de l'endeuillé, c'est de pouvoir parler de sa perte, de la personne. Toute cette horreur qui se passe pour l'instant dans sa vie et de reparler et reparler. Parce que beaucoup de gens ont l'impression, après l'enterrement, c'est terminé, on tourne la page, mais on tourne pas du tout la page après l'enterrement.
Mais justement, alors, quand est-ce qu'on tourne la page? Combien de temps est-ce que ça dure? Et est-ce qu'on peut savoir quand c'est fini?
On peut pas savoir quand c'est fini. Et puis... Il y a des essais de marquer un temps. À un moment donné, on disait une année. Maintenant, on commence à dire 6 mois. Moi, j'adhère pas du tout à ces limites de temps. La première année, je crois, de toute façon, si on peut accompagner quelqu'un, c'est que bénéfique. La première année, c'est toujours la première fois que le premier anniversaire. Les fêtes de Noël, de Pâques, des anniversaires, toujours la première fois sans la personne. Donc, la première année, on n'en discute même plus. Après, ça peut prendre plus de temps.
Donc, pendant une année, l'endeuillé peut avoir besoin de ce soutien pour ses différents événements, ses anniversaires, les premières fois sans la personne. Mais alors, est-ce qu'il y a quand même un peu une durée ou quelque chose de général ou quand est-ce qu'on sait qu'il faut arrêter d'aider la personne?
Je crois il n'y a pas une durée bien définie, mais on sent bien quand l'accompagnement touche gentiment à sa fin. Ça ne veut pas dire que la deuxième, la troisième année, on ne peut pas de temps en temps reparler ou être là pour la personne. Mais le moment, je crois, c'est très important aussi de définir quand cette phase de soutien touche à sa fin, sans que ça soit une fin où il y aura plus d'aide, mais cet accompagnement intense pour aussi pouvoir retrouver l'équilibre dans la relation. Donc, éviter d'éterniser le rôle d'aidant, ça peut vraiment nuire à la relation.
Donc, il n'y a pas une durée déterminée, mais comment on fait quand on sent que ça touche à sa fin?
Je crois de verbaliser, c'est très bien. De parler ensemble, de peut-être prendre l'initiative du côté de l'accompagnant et par la suite, on peut aussi poser un acte. Comme j'ai dit, ça peut être une discussion, ça peut aussi être un petit rituel que les deux personnes discutent ensemble en quoi ça pourrait consister.
Et on aura l'occasion de parler des types de rituels qu'on peut faire, peut-être dans un futur épisode de notre podcast Parlant Deuil. Ce que nous avons dit aujourd'hui, j'aimerais quand même le préciser, ça s'applique uniquement aux adultes, puisque pour les enfants, il y a d'autres procédés, c'est juste ?
Oui, c'est un sujet très large.
Et malheureusement, nous touchons déjà à la fin de notre épisode. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler dans un futur épisode, puisque notre épisode touche à sa fin. Il y a bien sûr de nombreuses facettes encore à explorer sur ce sujet, mais on espère avoir pu vous donner quelques outils si vous rencontrez cette situation. Merci donc Esther Vinch, présidente de l'AVSDS, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode.
Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant.
Merci d'avoir écouté le premier épisode de Parlons Deuil. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail podcastdeuil@gmail.com. Donc podcastdeuil, sans ponctuation, tout serré et tout en minuscules. N'hésitez pas à nous écrire. Et d'ici au prochain épisode, je vous dis à bientôt. C'était Parlons Deuil, un podcast de l'AVSDS présenté par Luc Vinge.